brève du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui...
Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences.
J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là.
Dans la belle salle du billard club Périgourdin, au Moulin du Rousseau, près de Lille, je suis aujourd'hui en présence de Catherine et François Schunk, qui s'occupent depuis longtemps déjà de ce beau club de billard, qui sont des spécialistes du billard, qui ont occupé l'un et l'autre des fonctions éminentes dans l'administration de ce jeu ou de ce sport. Eux vont me préciser si c'est un jeu ou un sport, et qui m'ont accepté de nous parler et de leur commune passion et du travail de recherche qu'ils ont fait sur une éminente joueuse de billard. Catherine, François, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de votre passion à Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment vous êtes venue au billard ?
Moi, je suis venue au billard par François, parce que avant de connaître François et avant qu'il s'investisse dans le club ici, je ne connaissais absolument rien du tout au billard.
Et vous êtes devenue joueuse de billard ?
Non, j'ai essayé, c'est fait maintenant plus de 30 ans, au début, quand j'ai essayé, mais je travaillais, j'avais un enfant jeune, je m'occupais, j'étais secrétaire du club et je gérais les emplois, on avait 3 ou 4 emplois, ce qu'on appelait des TUC à l'époque, des emplois aidés, donc c'était moi qui gérais, ça faisait trop, donc, et puis je n'étais pas très douée, je pense, pour le billard, donc non, j'ai pas joué.
François, vous, comment êtes-vous tombé dans le billard ?
Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, parce que j'avais un grand-oncle qui avait un billard chez lui, qui jouait pour s'amuser comme ça, et quand j'allais chez lui, je jouais aussi. Et depuis 8 ans, l'âge de 8 ans, à ma connaissance, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai démarré, j'ai tapé dans des billes. Alors sans aucune connaissance particulière, comme on s'amuse à cet âge-là. Et le temps venant, lorsque j'ai été, disons, lycéen, puis étudiant, j'ai consacré pas mal de mon temps d'études au billard plutôt qu'à la physique, ce qui ne m'a pas empêché quand même d'arriver à des résultats, mais c'est là que j'ai appris à jouer au billard de manière un peu plus structurée, disons.
Alors, vous me tendez la perche, parce que sachant que vous êtes un ancien professeur de physique, j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'il est utile d'être physicien pour jouer au billard ?
Pas vraiment, mais ça aide tout de même. Ça aide à comprendre ce qui se passe. Il y a quelques années, il y avait dans les lycées des projets que des groupes d'élèves montaient pour obtenir une note au baccalauréat. Je ne me souviens plus quel était l'intitulé de ce genre d'épreuve. Enfin bon, on avait un projet, on travaillait dessus et après on présentait le résultat. J'ai reçu ici quelques groupes d'élèves, des filles d'ailleurs souvent, qui ont travaillé sur le billard, le choc des billes, pourquoi les billes se déplacent-elles de telle ou telle manière, ou alors les trajets géométriques sur le billard. Donc c'est lié à ma profession de physicien, évidemment, ça.
Exactement, quand même. Alors, parce que le billard, c'est, enfin, je pense savoir que c'est quand même un jeu d'anticipation. Alors, est-ce que ça sert ?
Ah oui, ça sert quand même pas mal. On peut imaginer, quand on a des connaissances de physique, des choses, des manières de s'y prendre, des méthodes que quelqu'un qui n'a pas de connaissances en physique n'imaginera pas.
Vous avez quand même atteint un bon niveau, puisque vous avez pris des responsabilités importantes que vous allez peut-être rappeler à nos auditeurs dans ce jeu.
J'ai été dans le domaine des dirigeants, j'ai été président du club, j'ai été président de la Ligue d'Aquitaine, à l'époque où ça s'appelait encore l'Aquitaine, et j'ai été président adjoint de la fédération, puis président à la mort de celui qui était en fonction à ce moment-là, Michel Lombert, qui est décédé quelques mois avant la fin de son mandat. Et donc j'ai assuré l'intérim.
Catherine Schunk, est-ce que ce sport que vous voyez pratiquer ici au billard club Périgourdin est un sport qui s'est féminisé ?
Je pense qu'il s'est beaucoup féminisé, et heureusement, depuis l'époque où moi je tentais de faire quelques points sur ces billards. Là, à l'époque, il n'y avait pas du tout de femmes qui jouaient, alors à Périgueux, aucune du tout. Mais oui, ça s'est féminisé, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Il n'y a aucune raison qui empêche une femme de jouer au billard, et d'y jouer bien.
Il y a des aptitudes particulières. Alors là, je vais me retourner vers François. Parce que...
Oui, non, le sexe n'a rien à voir avec les performances qu'on peut atteindre au billard. Et d'ailleurs, il y a quelques siècles, 2-3 siècles, lorsque le billard était dans les limbes encore, il y avait autant de femmes que d'hommes autour des billards. Quand on regarde les tableaux de l'Ancien Régime, les tableaux d'époque, du XVIIIe siècle ou avant, eh bien, on voit des femmes, on voit des hommes, on voit des chiens, on voit des vieux, on voit des jeunes, on voit de tout. Hein.
Parce que quand même, c'est le moment de rappeler à nos auditeurs que le billard est un jeu très ancien, puisque si j'en crois ce que j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche, ça aurait été inventé par Louis XI.
Pas inventé, mais en fait, Louis XI avait des problèmes de dos, et alors il jouait, au croquet pour... que ça représente quelque chose dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Et il fallait se baisser, il ne voulait pas se baisser, il a demandé à son ébéniste, qui s'appelait Jean de Vigne, de concevoir une table sur laquelle il pourrait jouer quelque chose qui ressemble au croquet. Et c'est comme ça que Jean de Vigne a créé la première table de billard en France. Et donc puis, Louis XI, effectivement.
Alors petit à petit, le billard s'est perfectionné, mais il y a des choses, moi, qui, en tant que profane total, m'interpellent beaucoup. À quel moment est-ce qu'on a décidé d'équiper les billards d'une surface en ardoise, par exemple?
Ça s'est fait progressivement. Bon, les billes qui roulaient sur les premiers billards faisaient un bruit épouvantable. Donc on a d'abord dit, on va mettre quelque chose qui va absorber le bruit, un drap, un tapis. Et puis ensuite, on a vu qu'il y avait des irrégularités sur la table en bois. C'était du bois au départ. Et on s'est dit, peut-être faudrait quelque chose de plus lisse. Donc on a essayé la pierre, le marbre.
Là, on est en train de revenir à la physique, là.
Ouais, ouais. Et finalement, il s'est avéré que c'est l'ardoise qui était le meilleur support, qu'on pouvait le mieux lisser, sur lequel ça roulait le mieux. Et donc c'est venu progressivement. Au billard, les choses ont changé progressivement.
Oui, de même que le fait de chauffer la surface, et là encore on est à nouveau revenu à la physique, oui, pour améliorer les qualités de roulement.
C'est récent, oui. Les qualités de roulement, on évacue l'humidité. C'est ça qui empêche les billes de bien rouler sur le billard. Et donc on chauffe un peu pour évacuer la vapeur d'eau.
Rappelons à nos auditeurs que là, depuis le début de cet entretien, nous sommes en train de parler du billard français, de la carambole. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment le billard s'est diversifié ?
Alors, il était au départ, ce billard, juste après la Révolution, une espèce de mélange entre l'actuel billard français, carambole, et les actuels billards à poche. Sur les tables de billard, il y avait 6 poches qu'on appelait des blouses, et on marquait des points soit en carambolant, c'est-à-dire en touchant 2 billes avec celle que l'on utilisait, soit en empochant. Et puis, vers le milieu du 19e siècle, les deux branches du billard sont apparues. En Angleterre, on a conservé les poches, on a rajouté des billes, et en France, on a supprimé les poches et on a gardé 3 billes. Et à partir de ce moment-là, ça a évolué pendant environ un siècle, indépendamment l'un de l'autre. Chacun de son côté a modifié un petit peu les règles du jeu, etc. Et dans les années 1980, il y a eu une sorte d'offensive anglo-saxonne du billard par le nord de la France. Et là sont arrivés le snooker, ce qu'on appelle maintenant le blackball, et l'américain, qui est arrivé lui un petit peu avant avec les GIs au moment de la libération.
Alors, qui sont des billards, ces billards à poche, qui sont des billards qui se jouent avec beaucoup plus de boules que la carambole.
Voilà, je vous reprends sur le mot boule, ce sont des billes.
Les billes, c'est vrai que j'ai déjà commis cette erreur impardonnable.
Oui, bon, il y a beaucoup plus de billes, il y en a au snooker plus de 20. À l'américain, une bonne quinzaine, j'arrondis. Hein. Et puis au blackball, pareil, une quinzaine, alors qu'au français, il y en a 3.
Parce qu'il y a tant de de variétés du billard à poche.
Il y a des tas de variétés dont on ne parle pas en Europe. Je pense à la pyramide, je pense au billard chinois, je pense au billard japonais, etc. Il y a au moins une cinquantaine de façons de jouer au billard, c'est-à-dire de s'amuser avec des billes sur une table.
Vous voulez dire qu'ils sont des variantes locales ou nationales qui ont été, ou régionales,
oui,
ou culturelles, qui ont été mises au point comme ça dans différentes parties du monde.
Oui, tout ça à la fois, local, culturel, national même parfois, oui.
Mais alors en France, est-ce qu'il y a des préférences régionales marquées, ou qu'est-ce qui caractérise la géographie du billard en France ?
Ça, c'est une bonne question. Je dirais que dans...
Tout à l'heure, vous parliez de l'arrivée du billard à poche par le Nord.
Je pense que c'est arrivé par le Nord, mais ça s'est répandu dans toute la France. Je ne pense pas qu'il y ait de tradition locale, en dehors peut-être du bouchon dans le Sud-Ouest, qui était un jeu d'argent. Mais sinon, c'est carambole ou billard à poche sur tout le territoire et réparti à peu près équitablement maintenant.
Il n'y a pas, une des formes de billard qui a eu tendance à l'emporter sur l'autre. Je veux dire, le billard français, la carambole, avec ce jeu très épuré, sans poche et trois billes seulement, ça paraît tellement, je voudrais peut-être hasarder un adjectif, tellement raffiné par rapport au billard américain, qu'on se demande...
Moi, je classerais... De ce point de vue-là, les billards en deux catégories, le snooker et la carambole, le snooker et la carambole, qui sont effectivement épurés, des jeux très difficiles, de véritables sports. Et puis l'américain et le blackball, qui sont aussi des sports officiellement, mais qui sont beaucoup plus ludiques. Donc il y a deux types de billards qui ressemblent encore à des jeux, ce que tous les billards étaient auparavant, et puis deux qui sont franchement passés dans le domaine du sport avec des réglementations très strictes et ainsi de suite, et plus difficiles.
Ils sont des billards américains.
Les billards américains, domaine du jeu.
Voilà. On pourrait peut-être s'hasarder à dire que le billard français, la carambole, est plus cérébral.
Si on veut, oui, c'est vrai. C'est vrai, il demande plus de travail, on s'amuse moins au début au billard français, mais quand on y met le doigt...
Le billard, est-ce que c'est une passion, à l'instar de ce qu'on voit en ce moment avec le football ? Je dirais, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Bon, c'est pas une passion populaire, mais est-ce encore que là aussi j'aurais une question à vous poser, parce qu'il y a en France des sports qui se sont popularisés d'une façon spectaculaire, si on pense par exemple au tennis ou à l'équitation, en devenant des sports qui sont pratiqués par beaucoup plus de gens qu'auparavant.
Oui. C'est une passion pour quelques-uns à l'heure actuelle, mais à la fin du 19e siècle, c'était une passion populaire. C'était l'équivalent du football. Lorsque le champion français de l'époque, qui s'appelait Vigneault, a rencontré le champion américain de l'époque, qui s'appelait Slosson, il y avait 10 000 personnes sur la place de l'Opéra qui regardaient une fenêtre où étaient affichés les scores du match. Le président de la République, dont on dit qu'il s'est déplacé à l'occasion, ce qui n'est pas vrai, s'est quand même intéressé de très près au résultat de ce match. Donc c'était à l'époque quelque chose qu'on n'imagine plus maintenant. Mais c'était encore un jeu.
Avec un enjeu financier ou...
Ah, considérable.
Oui.
Considérable. Oui. Les joueurs de maintenant signeraient immédiatement pour toucher l'équivalent de ce qu'ont touché ces deux joueurs-là, et d'autres d'ailleurs.
Alors, si vous le voulez bien, on va dire quelques mots du billard club Périgourdin, que vous connaissez très bien l'un et l'autre, avant de passer à un travail très intéressant que vous avez fait sur, justement, une joueuse de billard. Alors, le billard club Périgourdin, à l'heure actuelle, compte combien de membres ?
Une quarantaine ? 44 ? Oui, ça change un petit peu, là, tous les jours.
Et moyenne d'âge ?
Alors, ça c'est une question intéressante. Moyenne d'âge au billard français, carambole, quelque chose comme 65 ans. Moyenne d'âge au billard à poche, quelque chose comme une cinquantaine d'années. Il y a visiblement et clairement deux générations qui ne s'intéressent pas au même type de billard.
que là, c'est un chiffre, c'est 44 membres du Beer Club, c'est un chiffre, bon, j'imagine que vous avez des fidèles. Est-ce que vous êtes en augmentation? Est-ce que vous faites quelque chose pour attirer des clients?
Oui, on est en augmentation depuis la Covid, l'épisode de la Covid où on était tombé bien bas. On avait perdu 20% de nos adhérents, comme la plupart des sports. Hein. Et depuis, ça remonte. Mais on était déjà en situation de croissance parce que on essaie justement d'attirer par différentes actions. Une école de billard, des manifestations de prestige, etc. On essaye d'attirer du monde. Vu la taille de la salle, vu les dimensions des billards, on ne peut pas non plus avoir 100 adhérents au Beer Club Périgourdin. Hein. 50, ça serait l'idéal.
Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots la taille des billards, le poids des billards?
Alors la taille, le snooker, c'est 3,80 m de long. Français, bière française, c'est 3,10 m ou 2,80 m, donc vous voyez, il y a déjà 1 mètre d'écart. Là. Et le black ball, là, c'est quelque chose comme 1,50 m. Quant au poids, c'est de l'ordre de quelques centaines de kilos, alors plus près de la tonne que de 100 kilos.
Et vous avez combien de billards dans cette très belle salle en L?
Alors, on en a 9. On en a 9 ici, 5 français, 3 snooker et le black ball. Et on en a des petits en bas qu'on sort à l'occasion pour aller sur les forums. Oui, on a une réserve de petits billards pour aller à l'extérieur, justement, démarcher en quelque sorte les futurs adhérents.
Dernière question, dans ce billard club périgourdin, est-ce que vous avez des étoiles montantes, des espoirs particuliers?
Des étoiles montantes, non. On a un champion de France master au snooker. Master, ça veut dire en l'occurrence plus de 40 ans. Donc champion de France quand même, hein. c'est pas n'importe qui, et toujours au snooker il y a 2-3 joueurs d'envergure nationale. Au billard français ça a été le cas il y a une dizaine d'années, et puis les décès ou les départs ont fait qu'à l'heure actuelle on est un peu dans le creux de la vague, mais ça va reprendre je pense.
Nous allons passer maintenant au travail que vous avez fait d'historien. Vous êtes, je crois, membre de la Société historique et archéologique du Périgord. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quel travail vous avez fait? Comment vous avez surtout été amené à faire ce travail?
Eh bien, tout est venu d'un article que la Fédération française de billard avait demandé à François d'écrire sur la princesse Yasmine Moulay-Brahim, parce que pour promouvoir le billard au féminin. Donc, il avait demandé à François de faire un article sur elle. Donc, il l'a fait. Et il a paru sur la revue fédérale, enfin sur les sites, et puis sur le je crois, Décathlon, qui était le partenaire de cette opération au féminin. Et nous avons été contactés par une dame qui nous a dit, mais je suis la filleule de la princesse, est-ce que vous savez que son fils habite Périgueux? Alors non, nous ne savions pas. Donc François a retrouvé le fils, il est allé le voir, et ils ont discuté, ils ont sympathisé, et ce fils, qui s'appelle Christian Moulay-Brahim, nous a montré un petit peu ce qu'il avait comme archive. Il avait des choses extraordinaires, et donc François lui a dit, vous savez, il y aurait matière à écrire un livre sur votre maman, est-ce que ça vous intéresse? Et alors lui, il était partant tout de suite. Donc du coup, nous nous y sommes mis tous les deux à ce moment-là, et nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Alors il a mis à notre disposition toutes les archives qu'il avait, des photos, des articles, des lettres, c'est incroyable, hein, vraiment une mine d'or pour des historiens. Il avait en particulier, parce que donc la mère de Yasmine était aussi un phénomène dans son genre, et il avait, je pense que c'était elle avait gardé tous les articles de journaux qui avaient paru au moment du mariage de sa mère avec ce prince Moulay-Brahim, qui est un descendant du prophète Mahomet, un prince marocain, qui avait fait du bruit parce qu'elle était de la bonne bourgeoisie de Saint-Étienne. Et donc, ils se sont rencontrés. Il est venu acheter des armes à Saint-Étienne, à la manufacture. Ils se sont rencontrés, coup de foudre. Et 3 mois après, ils se sont mariés. Enfin bon, elle avait 15 ans, la mère. Donc, un phénomène un peu. Et donc, on a retrouvé aussi les lettres qui sont parties au Maroc. Et on a eu connaissance des cartes postales qu'elle écrivait à sa famille, ce qui nous a permis de voir un petit peu comment ça s'est passé, les relations avec ce Moulay-Brahim, qui a assez vite disparu de la vie de la famille. Et donc Yasmine elle-même, qui un peu sur les traces de sa mère s'est retrouvée mère à 15 ans, sans être mariée, là, pour le coup, et de ce fils qui habite Périgueux, et qui a eu une vie, alors, vraiment très extraordinaire, parce que non seulement, bon, ça a été une championne de billard, la première femme championne de France de billard, mais en plus, elle a été la muse et la maîtresse de Vincent Scotto. C'est pour elle qu'il a écrit toutes les chansons qu'on connaît de Vincent Scotto. Elle a vécu dans le monde des arts, de la peinture. Enfin, bon, une vie absolument extraordinaire. Et
chronologiquement, est-ce que vous pouvez resituer un petit peu? Alors, ça, c'est cette dame, Yasmoula Ibrahim, est née...
Voilà. 1913. Elle est née en 1913, oui. À Saint-Étienne.
Est-ce que vous pouvez maintenant, Christian, nous dire un petit peu comment vous avez découvert le fils de... Enfin, Catherine l'a évoqué, comment vous avez découvert le fils de cette femme d'exception, et puis comment vous avez procédé pour ce travail?
Alors, la découverte, donc, c'est par l'intermédiaire de la filleule de la princesse qui nous a dit que ce fils habitait Périgueux, mais on ne savait pas où. Et c'est par le décès de la femme de ce fils... Il y avait eu une annonce dans le journal que j'ai retrouvé l'adresse. À partir du nom, j'ai cherché Moulebrahim, etc. Et du coup, j'ai eu l'adresse, je suis allé frapper à sa porte.
Voilà comment alors, ça s'est passé. Alors, cette héroïne qui est née, comme Catherine vient de le dire, en 1913, qui est décédée, je crois, en 1997, son fils doit être très âgé quand même maintenant.
Il a 94 ans, là, en ce moment.
Oui.
Et toute sa tête... Il m'a d'abord montré ce qu'il avait, donc les photos, etc.
Mis à votre disposition,
tout les archives. Catherine a expliqué ça tout à l'heure, et il les a mis à notre disposition, on les a emportés chez nous.
Oui, parce
il nous les a confiés.
Donc on a fait du tri dans ses archives.
Alors on les lui a triés, et puis on les lui a rapportés, évidemment, après en avoir tiré la substantifique moelle.
Est-ce que vous pouvez maintenant parler de Catherine a évoqué cette vie tumultueuse de Yasmine. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce qu'elle a fait dans le domaine du billard?
Alors, dans le domaine du billard, Scotto lui avait posé une sorte d'ultimatum. Il voulait l'avoir à sa disposition. C'était sa maîtresse. Il voulait l'avoir à sa disposition, près de lui. Il lui a dit, il faut que tu trouves une activité qui t'intéresse et qui puisse te garder près de moi. Et il se trouve qu'à côté du studio de Vincent Scotto, à Paris, il y avait des académies de billard et qu'elle, Yasmine, dans sa famille, ont joué au billard, un peu comme moi avec mon grand-oncle là, mais peut-être à un niveau un petit peu plus élevé. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas le billard?
Elle était déjà initiée quand même.
Elle était déjà initiée par sa mère, dont on parlait tout à l'heure, qui était également une excellente joueuse de billard. Et donc, elle s'est inscrite au Billard Palace, qui était un billard mythique, boulevard des Capucines, à Paris, pas très loin de chez Vincent Scotto, il y avait peut-être un kilomètre à faire à pied. Et tous les jours, elle jouait au billard avec des professeurs, elle prenait des cours avec les meilleurs de l'époque. Et comme elle était douée, elle a très vite progressé. Et c'est devenu un des meilleurs joueurs, pour prendre le terme général, un des meilleurs joueurs français. Elle était au niveau des plus forts joueurs masculins.
Et elle a été championne de France
Sept fois de suite. Mais bon, elles étaient trois à disputer le championnat de France. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Elles étaient trois, dont sa mère. Mais bon, elle aurait joué maintenant, elle serait peut-être... Quoique maintenant... Elle aurait une opposante de qualité. Elle aurait une concurrente à sa hauteur, qui la battrait sans doute d'ailleurs. Elle pourrait jouer parmi les meilleurs Français toujours à l'heure actuelle. Oui.
Maintenant, je vais revenir vers Catherine. Quelle femme était Yasmine Moulay Ibrahim?
Bien, si nous l'avons mis un petit peu sur le sous-titre du livre, c'est une femme libre. C'est-à-dire, elle a fait des choix dans sa vie, des choix qui étaient très modernes, je dirais, pour son époque. Elle les a assumés et moi, c'est ça qui m'a frappée. Vraiment, elle était très moderne pour son époque. Parce que, bon, avoir un enfant, mère célibataire, dans les années, donc, il est né, elle avait 15 ans, 28, il est né en 28, donc dans les années 30, disons, c'était quand même pas évident. Au départ, on avait voulu la marier avec le père. Comme ses parents, en fait, au bout d'un an, ils n'ont plus, Rose n'avait plus du tout de nouvelles de son mari, donc elle a été élevée à Saint-Étienne dans la famille de sa mère. Donc, elle a rencontré celui qui a été le père de Christian. Sa famille l'aurait bien voulu qu'elle se marie. Ils ont fait tous les papiers et tout, mais au dernier moment, elle a dit non, je ne l'épouse pas. Et elle est partie à Paris, chez un oncle, et elle a eu son gamin toute seule.
Voilà, c'est pourquoi vous parlez de mère célibataire.
Oui,
c'était pas du tout statut extrêmement lourd à cette époque.
Absolument, c'était pas évident. Donc après, elle a rencontré Vincent Scotto peu de temps après. C'était pareil. Une vie avec Vincent Scotto, c'était quand même pas non plus la vie d'une femme de tous les jours.
On dit que elle fréquentait les têtes d'affiche du monde du spectacle de l'époque. Ah,
oui.
Donc j'imagine que c'était une vie quand même assez exaltante.
C'était une vie sûrement très exaltante, mais enfin pas très bourgeoise, on va dire. Voilà,
oui,
pas très...
Un peu bohème.
Et peut-être qu'elle était mal vue de la société bien-pensante à une certaine époque. Voilà, après la guerre, elle s'est séparée, enfin ils se sont séparés de fait, après la guerre, mais elle a refait sa vie avec...
Vous voulez dire avec Scotto.
Scotto, oui. Bon, d'abord, il était beaucoup plus âgé qu'elle, donc je crois qu'il avait 50 ans de plus qu'elle, non?
Oui.
Donc il était...
Ça aussi, c'est un choix.
C'est aussi, oui.
Bien sûr. Et puis un choix lourd à cette époque.
Voilà. Donc, après-guerre, elle a rencontré un peintre. Elle a vécu avec un peintre pendant quelques années, dont elle a eu une fille après, d'ailleurs, aussi. Elle n'a pas quitté la bohème. Et puis, elle a eu quelques difficultés. Enfin, quelques difficultés, je dirais, d'ordre financier. Et bon, finalement, elle s'en est sortie. Elle s'est mariée. Et avec son mari, ils ont recréé tout un monde autour du... Alors, la peinture, cette fois-ci, c'était plus le spectacle...
C'était
dans le monde de la peinture, oui. Ils organisaient des salons où ils promouvaient les jeunes talents en peinture. Enfin, bon, elle a eu vraiment une vie exceptionnelle.
Ouais. Et alors, elle a joué au billard, à votre connaissance, Françoise, jusqu'à quel âge?
Elle s'est arrêtée à la guerre. Elle continuait chez elle sans doute, mais elle n'avait plus de billard chez elle. Elle devait aller jouer de temps en temps avec des amis. Mais elle n'a plus fait de compétition, elle n'a plus joué comme elle le faisait avant la guerre. En fait, elle a eu une carrière d'une dizaine d'années, dans les années 30, et ça s'est arrêté là.
Parce qu'en étant née en 1913, comme nous l'a dit Catherine, Elle avait une trentaine d'années en 1940 ou 41 lorsqu'elle a rencontré Scotto.
Absolument, oui, elle était très jeune. Et nous n'avons pas d'informations sur ce qui concerne le billard après la guerre. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'elle n'a pas joué beaucoup. Sinon on le saurait, mais c'est comme le vélo, le billard, hein, ça ne s'oublie pas. Donc vous la mettiez dans les années 90 en face d'un billard, elle était capable de vous aligner pas mal de points quand même. Hein.
Donc, ah oui.
Oui.
Et ça, c'est vous le tenez du témoignage de son fils?
Non, c'est mon expérience de joueur de billard.
Oui,
ah bon? Oui. Bon, un joueur de billard qui atteint le niveau qu'elle avait atteint ne peut pas du jour au lendemain, comme il faut plus qu'une vie pour perdre.
Oui. Ce fils vit encore, comme vous l'avez dit. Il est même bien âgé. Quel souvenir a-t-il de sa mère?
Je dirais qu'il a un souvenir un peu idéalisé parce que, en fait, il n'a jamais vécu beaucoup avec elle. Il a été mis en pension. Après, il est parti pour sa vie professionnelle. Mais, bon, visiblement, il a une adulation pour sa mère. C'est assez émouvant, d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été partant tout de suite pour qu'on écrive ce livre.
Qu'il ait conservé toutes ses archives
Oui. Alors, il avait écrit des souvenirs de sa mère. Il avait fait un petit texte qui nous a passé. Bon, qui était, je pense, écrit avec aussi ce qu'elle lui a raconté. Parce que, bon, comme lui, il n'avait pas d'abord enfant, il ne pouvait pas se rappeler tout ce qu'elle avait fait. Et bon, ce n'était pas toujours très exact. Quand on essaye de le confronter avec les faits, pas toujours. C'était idéalisé. Je pense qu'il avait.
La légende familiale, voilà.
Le roman familial.
Oui, classique.
François et Catherine, merci beaucoup de tout ce que vous venez de nous apporter sur cette femme extraordinaire et sur le billard. Et bonne continuation au billard club Périgourdin, prospérité de ce club. Et merci encore de votre très intéressant témoignage.
Merci à vous surtout.
C'est vous qui êtes à remercier.
Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
De tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.